Lors d'une célébration, nous avons aussi l'habitude de nous placer à l'écoute de Dieu à travers sa parole, que l'on appelle aussi la Bible. Et c'est ce que nous allons faire maintenant de manière un peu spéciale, vous allez le voir, parce que les chrétiens ont une certaine habitude, comme beaucoup de monde dans notre société, c'est le matin de Pâques de se réunir à plusieurs pour vivre ce que l'on appelle une aube de Pâques, c'est-à-dire de voir le soleil qui se lève comme symbole effectivement de la vie qui renaît. Et pour la lecture de ce texte biblique, j'ai demandé à Marie Ray si elle était d'accord de procéder ainsi. Et c'est ce que nous allons pouvoir écouter maintenant. Vous allez voir, ce sera un très beau moment. Nous allons pouvoir écouter une histoire que Jésus raconte à ceux et celles qui sont autour de lui. On appelle ces histoires des paraboles. C'est une autre manière de parler en images, d'illustrer une scène de vie. Alors, mettons-nous à l'écoute de la parole et ensuite, je vous proposerai une méditation sur cette histoire.
Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays, qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste alors que moi, ici, je meurs de faim ?» Je vais partir. J'irai chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons et faisons la fête. Car mon fils, que voici, était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Mais quand ton fils, que voici, est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as abattu le veau engraissé. » Son père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère, que voici, était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. »
Vous avez peut-être reconnu l'endroit où Marie a filmé cette aube. C'est à la plage de l'UFA à Nyon, une plage qui devient importante pour notre église, notre communauté au fil des années, car c'est là que nous avons l'habitude de vivre des moments forts autour des baptêmes. Le baptême qui est ce symbole que nous chrétiens pratiquons depuis aussi des millénaires, de retour à la vie. Nous passons sous l'eau à la mort et nous revenons à la vie en ressortant de l'eau. Alors c'est aussi un clin d'œil que nous pouvons faire en ce matin de Pâques que de nous souvenir de cet endroit particulier pour nous. Notre foi s'inscrit toujours dans des lieux, dans des éléments très concrets, et cette réalité fait partie de notre vie d'Église et de la vie de plusieurs d'entre nous qui ont bénéficié de ce lieu pour pouvoir vivre ce temps de baptême. Parce que dans cette parabole, dans cette histoire, il est question de retour à la vie. Voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Voici ton frère qui est mort et il est revenu à la vie. Dieu a aussi vu son fils reprendre vie. Nous croyons et nous voyons notre frère, notre ami Jésus-Christ, reprendre vie. Dans ce temps de confinement, j'ai le privilège, ou la lourde tâche, suivant de quel côté nous nous plaçons, de devenir enseignant pour mes enfants. Et c'est vrai qu'on a pris l'habitude de commencer notre journée d'enseignement par un temps spirituel où on peut méditer un passage de l'Écriture. Et un jour, nous avons donc médité, avec mes trois enfants, cette histoire racontée par Jésus à celles et ceux qui étaient autour de lui. En fait, il ne raconte pas qu'une histoire à ce moment-là, mais il en rencontre trois différentes. La première, c'est celle d'un berger qui perd l'une de ses brebis, et qui part la rechercher en laissant les 99 autres confiné dans la bergerie. Comme quoi, il y a des mots qui apparaissent au fur et à mesure de notre époque. Une autre histoire qu'il raconte à la suite, c'est celle d'une femme qui a perdu une pièce de 2 francs, qui elle aussi est confinée dans sa maison et met toute son énergie à essayer de retrouver cette pièce de 2 francs. Elle nettoie la maison de fond en comble et elle finit par mettre la main dessus. Et finalement, l'histoire de ce père qui voit l'un de ses fils partir et que nous venons d'écouter. Ces histoires sont quand même assez connues, spécialement celle que l'on appelle le fils prodigue. On aurait aussi pu l'appeler la joie du père. Et pourtant, jamais je n'avais remarqué cette insistance sur le retour à la vie. Jamais je n'avais remarqué l'importance du message de Pâques au cœur même de cette histoire. Dans mon esprit, il y avait bien le pardon, la jalousie, frustration à la vue du frère aîné, l'amour inconditionnel du père, la compassion, la miséricorde, tout ce que vous voulez. Mais jamais cette exclamation, ce cri de joie, finalement, du retour à la vie. Voici mon fils qui était mort et revenu à la vie. Et voici ton frère qui était mort et revenu à la vie. Cette exclamation, ce cri de joie scande le récit, il structure cette parabole. Les deux exclamations sont placées à deux endroits stratégiques pour signifier la pointe, l'élément central que Jésus veut transmettre à ceux qui l'écoutent. Et évidemment, vous avez compris, cela fait écho à Pâques. On lit, comme nous l'avons lu déjà dans Jean, dans l'évangile de Luc aussi, les femmes qui trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau, elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes survinrent devant elles, en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent, et c'est la même exclamation que dans la parabole, « Pourquoi cherchez-vous le vivant ? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il s'est réveillé. » Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il s'est éveillé. Oui, Christ n'est plus mort, il est appelé le vivant. Le cœur du Père, on le voit dans cette parabole, brûle de ce retour à la vie pour son Fils et par extension pour nous tous qui pouvons devenir par adoption ses enfants à notre tour. Comme il brûle d'aller chercher une brebis au loin, comme il brûle de retrouver une pièce perdue, comme il brûle de voir son bien-aimé revenir, son fils bien-aimé le voir arriver au bout du chemin. Il y a cette femme, flamme en lui, qui brûle pour les femmes et les hommes que nous sommes. et en creux. Cela signifie qu'il est prêt à accueillir la rancune potentielle qu'il pourrait légitimement avoir envers ce fils. Il accueille la déception certainement assez grande par rapport à cette attitude. On peut penser aussi à la frustration de voir son héritage partir ainsi en fumée. Voire même l'angoisse de s'imaginer son fils mort, perdu, n'ayant plus aucune nouvelle de lui. L'épreuve imposée par ce fils cadet est redoutable. Et à combien plus forte raison a dû être redoutable pour le Père, notre Dieu, d'entendre son fils crier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles que Jésus prononce sur la croix et dont nous avons pu méditer la réalité lors du culte de Vendredi Saint. Oui, cet accueil inconditionnel, cet accueil indépendamment de tout ce qui a pu se passer dans notre vie, signifie que nous ne pouvons pas tomber plus bas que l'amour du Père. Et ce retour à la vie, cette phase de mort qui revient à la vie, c'est ça que ça signifie, cet amour inconditionnel de Dieu. Ce retour à la vie, ce passage de la mort à la vie, signifie aussi une puissance extraordinaire. Une puissance qui nous dépasse et qui est seulement rendue possible par l'action de Dieu. Le tombeau vide, ce n'est pas rien. Cette victoire définitive de la vie sur la mort, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pâques est l'événement central de la foi chrétienne. Il est aussi celui qui marque le plus la césure avec celles et ceux qui ne croient pas. Car la résurrection reste un événement compliqué à comprendre. Un événement extraordinaire et tellement extraordinaire que l'on a cru bon de le remplacer par des œufs et des lapins en chocolat, bien plus ordinaire et bien plus palpable. Pâques est aussi un événement encore largement inexpliqué, et ce pour toujours. Et on le voit bien ces derniers temps, le désarroi dans lequel nous sommes plongés lorsque quelque chose est inexpliqué, qu'on ne sait pas d'où ça vient, quels effets ça peut avoir. À nouveau, c'est beaucoup plus facile de remplacer cela par des œufs et des lapins en chocolat. Ni les femmes, ni les disciples, personne le matin de Pâques n'a pu expliquer ce qui se passait. Par contre, très vite après ce matin-là, les croyants ont commencé à se réunir par tout petits groupes, puis par plus grands groupes, jusqu'à aujourd'hui, nous qui sommes réunis ce matin. Il y a une puissance là, tout à fait palpable, tout à fait réelle, qui démontre que cet extraordinaire du matin de Pâques a des répercussions bien observables. Alors, face à cette réalité-là, face à ces aspects extraordinaires, comment réagir? Là encore, le père de la parabole nous donne une piste, et une belle piste. La réaction du père est unique. La réaction du père va dans une seule direction. Il décrète jour de fête pour toute la maison. Il décrète qu'il faut faire la fête. Il décrète qu'il faut se réjouir. Il n'a finalement qu'une envie, et c'est même plus qu'une envie, c'est même une nécessité. Et cela en dit long. C'est une nécessité pour lui de marquer le coup, de faire la fête de cette vie qui prend le pas sur la mort. Il y a presque pour lui une forme de non-choix. Se réjouir du retour à la vie prend le pas sur tout le reste et devient la priorité numéro une. La force de la vie est si importante qu'elle bouge les lignes. La force de la vie est si importante qu'elle provoque des réactions contrastées, voire de colère, comme celle que nous constatons avec celle du frère aîné. En effet, le père n'agit pas de manière diplomatique. Il ne prend pas son temps, il ne cherche pas l'équilibre, car il est poussé par une force de la vie qui déplace tout sur son passage. Très bizarrement, il faut bien le reconnaître, cette nécessité de faire la fête et de se réjouir a souvent été remplacée dans la tradition chrétienne par la nécessité de la confession des péchés. Souvent, en plus, dans une logique très comptable, à l'opposé de la générosité qui est caractérisée par la fête. Et je dois bien avouer, il y a presque quelque chose un peu de tragique de ce constat. Comment se fait-il que cette joie a été remplacée par ce côté un peu mortifère? Évidemment, la confession des péchés fait partie intégrante de la vie chrétienne, un peu comme se laver les mains depuis mars 2020. Le Fils qui revient le fait de tout son cœur. Il demande pardon de tout son cœur. Là n'est pas la question, je ne limite pas cette réalité-là. Mais de voir que cette réalité-là a pu prendre toute la place, tout l'espace, est une absurdité totale au regard du message de l'Évangile qui signifie « bonne nouvelle ». C'est frappant de voir dans ce texte, dans cette histoire, que le Père ne s'attarde pas sur l'examen de conscience de son Fils qui revient. Qu'est-ce qu'il fait? Il court vers lui, il l'embrasse, et à peine a-t-il fini sa demande de pardon, qu'il ordonne à ses serviteurs de tout préparer pour se réjouir. En creux, il ne l'assaille pas de questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, essayer de débusquer les défaillances. Il ordonne à ses serviteurs de préparer le veau gras. Voici mon fils qui était mort et revenu à la vie. Voici ton frère qui était mort et revenu à la vie. La résurrection, ce mot un peu compliqué que mes enfants ont de la peine à comprendre, mais ce retour à la vie reste et restera pour toujours la réponse finale de Dieu pour nous êtres humains. Réponse finale qui ne signifie pas effacement de la mort, de la souffrance et de l'angoisse. Elle signifie dépassement de la mort, de la souffrance et de l'angoisse. Elle dit que tous ces éléments-là n'ont pas le dernier mot. Et c'est particulièrement vrai pour la période que nous vivons. Elle dit que la mort n'est pas le fin mot de l'histoire aussi avec un grand H, comme de notre histoire personnelle. La nuance est de taille. Et c'est cette réalité que nous fêtons comme le Père fête le retour de son Fils à la vie. Et concrètement, ça pose un sacré regard sur la vie. Ça pose un sacré regard qui nous fait voir notre quotidien différemment, avec une bonne dose d'espérance, de joie et d'amour. Nous concluons aujourd'hui notre série de prédications entamée il y a plusieurs semaines, le 1er mars, dans une autre vie. Notre série de prédications sur l'espérance. Et il paraît difficile de conclure d'une meilleure manière que celle-là avec ce Père qui se réjouit du retour à la vie de son Fils, comme nous, nous nous réjouissons du retour à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme lui qui voit son Fils revenir à la vie et qui s'en réjouit fortement, que nous puissions aussi, aujourd'hui et chaque jour, nous réjouir de cette réponse définitive qui nous est donnée par Dieu. La vie est plus forte que la mort. Amen.